Chers frères et sœurs, en ce quatrième dimanche de l'Avent, j'ai retenu un texte qui parle de vierge, d'attente et d'une nuit qui n'est peut-être ni douce ni bienveillante, mais d'une nuit quand même. C'est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, les 13 premiers versets. C'est une parabole qui parle du royaume des cieux, et voici ce que dit cette histoire. « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux ! Sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Et cette parabole se finit avec ce verset « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. » Avant d'entrer plus en profondeur dans ce texte, comme on entre en religion, probablement, je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières au cantique 193. Nous y chanterons les strophes 1, 2, et 3. Préparons-nous à la méditation par ce cantique « Parle par le Seigneur ». Levons-nous pour cela. Dieu notre Père, toi qui, par ton esprit, assemble les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Chers frères et sœurs, j'imagine que vous aviez déjà entendu cette histoire de vierge sage et de vierge folle, tant cet épisode biblique figure haut dans le panthéon des textes bibliques. Cette histoire parle du royaume des cieux, et on pourrait se dire que nous avons là une clé intéressante pour pouvoir y avoir accès et avoir part, nous aussi, à la noce. Mais je trouve que ce récit a aussi un côté assez désagréable. Et ce côté désagréable, c'est d'être quand même assez choquant. Le choc, c'est que tout le monde n'a pas droit d'entrer à la noce. Alors on pourrait se dire, peut-être en pensant à une sorte de pédagogie, eh bien voilà, nous avons là une sorte de manuel pour le bon éclaireur. Le bon éclaireur, c'est celui qui est toujours prêt. C'est celui qui a toujours papier, couteau, ficelle, boussole, huile et lampe à huile. Et que s'il n'a pas cela, tant pis. Tant pis pour lui. Et on pourrait se dire, ce texte résonne un peu en termes de tant pis. Et c'est cela qui est agaçant, je trouve. Ce texte, en vérité, avant de nous dire des choses sur le royaume des cieux, commence par en dire sur nous-mêmes. Avant de lire ce texte, c'est ce texte qui nous lit. C'est ce texte qui, par un effet miroir, nous montre ce que nous avons en tête au sujet du royaume de Dieu, au sujet de la divinité. Et au fond, ce texte agit d'abord et avant tout comme révélateur. Ce texte peut être lu de bien des manières différentes. Il peut être lu d'abord comme une justification biblique au sujet du fait que le salut de Dieu ne serait vraiment pas pour tous. Que certains seraient sauvés et d'autres pas. Oui, certains peuvent entrer, mais d'autres seront refoulés, comme on peut l'être à une soirée privée, lorsque nous ne sommes pas connus de la personne qui est à l'accueil, ou comme on peut être refoulé par le videur d'une boîte de nuit. à ceux qui tiennent au fait que le salut de Dieu n'est pas universel, n'est pas communément répandu, eh bien cette histoire peut offrir dans une certaine mesure une justification qu'il y aura effectivement des personnes qui resteront à la porte. C'est une lecture qui exclut ceux qui ne sont pas élus. Tant pis pour eux. C'est une lecture qui n'est pas très loin de ce que nous disons dans les milieux réformés. Parfois, c'est ce qui est encore professé dans certaines communautés protestantes. C'est un principe de prédestination, je crois. Ce texte peut être lu également comme une justification d'un salut qui n'est pas fondé sur la grâce de Dieu, mais sur nous-mêmes, sur nos propres efforts, sur ce que nous faisons de notre vie. C'est en fonction de nous, de ce que nous faisons ou ne faisons pas, de ce que nous avons ou n'avons pas, que nous avons ou non accès à l'intimité de Dieu. Votre lampe est remplie d'huile, c'est heureux pour vous. Dans le cas contraire, tant pis. L'accès au royaume des cieux, l'accès dans la proximité de Dieu est alors déterminé par une sorte de justice comptable qui recale ceux qui n'en ont pas assez. Ceux qui n'ont pas assez prié Dieu, ceux qui n'ont pas assez médité la Bible, ceux qui n'ont pas assez fréquenté leur paroisse, pas assez réfléchi aux questions théologiques, pas assez pris de temps pour leur spiritualité. Et selon cette lecture, notre droit d'entrée dépend de notre taux de remplissage. Soyons pleins de religion et on nous laissera entrer. C'est le royaume des cieux pour les bons seulement. C'est une approche, disons, gnostique. Soit vous savez et vous entrez, soit vous ne savez pas et vous restez dehors. C'est pour les initiés. Avec un peu plus de nuance, une troisième lecture essaie d'équilibrer l'action de Dieu et la réponse de l'homme. Ce n'est pas tout à fait le décret mystérieux de Dieu qui s'applique, ce n'est pas non plus simplement la démarche volontaire de l'homme. C'est Dieu qui organise la noce, c'est Dieu qui invite, qui vient à la rencontre de l'homme, mais encore faut-il que l'homme réponde de sa personne, qu'il s'implique dans cette noce, qu'il s'apprête convenablement pour avoir part à la fête. Autrement dit, l'action de Dieu et celle des hommes sont conjointement nécessaires pour avoir part à cette fête. Il y est bien question de grâce, mais c'est une grâce conditionnée. C'est une grâce conditionnée par l'attitude humaine. Et là, c'est le royaume des cieux seulement pour ceux qui ont les bonnes réponses, ceux qui ont bien agi, ceux qui ont appliqué les commandements, la loi. Et dans ce cas, il est préférable d'avoir été baptisé, de participer un peu à la célébration de la scène, d'avoir pratiqué tout ce que la religion peut encourager, car dans ce cas, c'est le royaume des cieux qui exclut ceux qui n'ont pas été bien sages. Voilà trois lectures qui ont été développées par différentes traditions chrétiennes et qui aujourd'hui encore trouvent un certain écho dans les milieux du christianisme. Auprès de nous parfois, auprès de nous souvent, lorsque nous voulons nous rassurer sur le fait que nous aussi, nous aurons bel et bien part à la noce. Nous aussi, nous voulons non seulement la foi, mais aussi des certitudes, être certains d'en être. Pas simplement la foi qui espère, mais la certitude qui est certaine. Donc nous avons besoin d'assurance, de lettres de crédit ferme, pas de chèque en bois. Et pour nous assurer que cela est bien vrai pour nous? Eh bien, nous lisons ce genre de texte en nous disant que nous sommes du côté de ces vierges sages qui étaient bien munies des saints sacrements et de tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir accès à ce royaume des cieux. Et nous nous mettons à penser qu'il suffirait d'appliquer cette recette du dernier verset pour être certain de nous. Nous nous mettons à penser qu'il suffirait de veiller, d'avoir sa lampe prête à l'emploi, pleine de toutes sortes de choses que Dieu a mises à notre disposition pour faire partie du cortège qui accompagnera l'époux jusqu'à la noce divine, pour filer la métaphore. Ce serait oublier un peu vite que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges, dont la moitié était insensée, et les autres sages, et qui prirent toutes leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. Et le royaume des cieux, c'est cet époux qui surgit de la nuit à l'improviste, personne ne sachant à l'avance ni le jour ni l'heure. Le royaume des cieux, c'est cela, dit la parabole. Ce n'est pas d'abord un jeu de massacre ou un jeu de sélection. Le royaume des cieux, ce sont, ensemble, des vierges, certaines sages, certaines insensées. Alors évidemment, il y a ce dernier verset qui semble donner la clé d'accès au royaume en conseillant de veiller, puisque nul ne peut prétendre savoir quand adviendra le règne de Dieu. Mais quelle curieuse chose, à vrai dire, que cet appel à la veille, cet appel à veiller, alors que toutes les vierges sont endormies, toutes sans exception. Il n'y a pas que les insensés qui se sont assoupis. Toutes se sont endormies bien sagement, et cela n'a pas empêché 5 d'entre elles d'accéder ensuite à la noce. Alors s'il fallait veiller au sens de rester éveillé, toutes auraient dû être recalées, puisque toutes se sont endormies. Et si veiller, c'était plus modestement être capable d'être éveillé, d'être réveillé, eh bien dans ce cas, toutes auraient dû être admises, puisque toutes ont été réveillées et toutes ont été levées. Les 5 vierges insensées n'ont pas eu plus de mal que les autres à sortir de leur sommeil et d'être ressuscitées, pour le dire théologiquement. Le vrai problème de ce texte, c'est en fait ce dernier verset. Et plus que ce dernier verset, c'est le verbe qui est traduit par « veiller ». C'est très étonnant, très très étonnant. Grégorein, un verbe qui n'existe pas vraiment dans la langue grecque. Quand on veut exprimer le fait de rester éveillé, de ne pas dormir, les évangélistes notamment emploient le verbe « agrupnein ». Grégorein, c'est un néologisme. C'est un mot qui ne fait pas partie de la langue grecque. C'est un néologisme biblique que l'on retrouve dans quelques endroits, dans quelques passages bibliques, un peu plus tôt dans l'Évangile selon Matthieu, au sujet de 2 femmes qui sont en train de moudre. L'une est prise et l'autre n'est pas prise. Et le conseil qui suit, c'est de grégorer, pour reprendre le mot du texte. C'est un verbe que l'on retrouvera à quelques endroits où plusieurs personnes sont concernées par un événement qui doit arriver soudainement. Alors on pourrait éventuellement considérer que c'est là une forme erronée du verbe « egeiren », se lever. Ce verbe qui est utilisé pour parler du réveil des femmes. Mais le problème reste le même. Toutes ont été égayrées de la même manière, mais toutes n'ont pas pu entrer. Ce qui montre que la question de l'éveil, du réveil, de la veille n'est pas suffisant. Il me semble que la meilleure solution qui soit pour comprendre ce texte et lui donner du sens, c'est de comprendre ce néologisme grégorien comme une dérivation d'un mot latin. Le verbe grec, grégorein, pourrait peut-être bien venir du verbe latin gregare, que nous connaissons bien, parce qu'il a donné dans notre langue française le fameux instinct grégaire. Grégaire. Ça signifie se réunir, attrouper, mettre ensemble, réunir. Et si cette hypothèse semble bonne, eh bien, cela signifierait que cet évangile nous conseille peut-être d'être vigilant, certes, c'est toujours bon d'être vigilant, mais premièrement, d'être grégaire, de rester groupé. La recommandation de ce passage d'évangile, ce serait alors de maintenir le royaume des cieux tel qu'il est décrit au départ, avec ses 10 vierges, certaines sages, certaines folles, 10 vierges qui peuvent être des saints ou des assassins, des femmes du monde ou des belles de nuit, et qui sont ce que l'humanité est capable de produire ensemble. Cette leçon d'évangile serait peut-être d'abord un encouragement à faire en sorte que justement personne ne soit exclu. La recommandation de ce passage d'évangile serait de maintenir ensemble l'intégralité de ce groupe, de faire en sorte que ce groupe fasse corps, qu'il évite l'éparpillement, qu'il évite la fragmentation, parce que c'est à partir du moment où il se sépare que ça finit mal pour l'une des parties. Autrement dit, cet évangile ne regarderait pas forcément d'un bon œil la sagesse de ces 5-là qui avaient de l'huile dans leur lampe, mais qui n'ont pas été spécialement de bons conseils pour les 5 autres, en les envoyant au loin alors que le royaume de Dieu était là, tout proche. La sagesse de ces 5 vierges qualifiées de sages est somme toute assez relative, je trouve. Est-ce qu'un éclaireur laisserait dans la panade 5 autres éclaireurs qui ne seraient pas munis de tout ce qui est nécessaire? La sagesse de ces 5 vierges dites sages correspond assez bien à la sagesse du monde qui dit qu'il vaut mieux en sauver 5 que de courir le risque d'en perdre 10. Mais qu'est-ce qui aurait empêché les 5 vierges sans lampe allumée de se joindre aux 5 autres et de profiter de l'éclat de leur lampe? Et bien sûr, ces lampes sont métaphoriques, mais qu'est-ce qui aurait empêché ces 5-là, ces 5 insensés, d'être au bénéfice de l'éclat des 5 autres? Qu'est-ce qui aurait empêché les 5 qui ne sont pas munis d'huile d'être au bénéfice des 5 autres, lumière pour le monde et notamment pour elles? Faire corps, à rester ensemble, unir les forces et les talents, et les faire valoir. Joseph ne répudie pas Marie, il s'agrège à elle, alors qu'il aurait pu considérer que ce n'était pas forcément très bon pour lui de rester avec cette fille. La foule qui écoute Jésus et qui a soudainement faim, elle n'est pas renvoyée à la ville pour y trouver des victuailles qu'elle achètera chez l'épicier, alors que la sagesse des disciples dicte cela. Jésus, Seigneur, Maître, renvoie-les afin qu'ils achètent de quoi se nourrir. Donnez-leur vous-même à manger. Jésus ne lâchera pas ses disciples, même quand Pierre fera cavalier seul. Alors ce texte parle d'exclusion si on le souhaite. Ce texte parle de châtiment si on l'espère. Ce texte parle de la dureté de Dieu si on le désire. Oui, toutes ces lectures sont possibles. Ce sont nos lectures. Mais tout cela à la condition de couper cette histoire au verset 12 et de considérer qu'il n'y a pas de suite. De considérer que l'acte final est la réponse donnée par cet homme qui se tient à la porte et dont on ignore l'identité. Il se pourrait bien que ce soit le maître de la maison où se tient la noce, sans qu'il s'agisse forcément du Christ. Il se pourrait bien néanmoins que ce soit là une figure du Christ, mais dans ce cas, c'est un Christ amnésique, qui oublie les siens, qui ne connaît plus ses brebis par leur nom, qui n'ouvre plus quand on frappe à sa porte, qui ne donne plus quand on demande, et qui retire sa grâce avec la plus grande nonchalance qui soit, si l'histoire s'arrête là, effectivement. Mais si l'histoire s'arrêtait là, effectivement, ça étonnerait quand même le lecteur de l'évangile de Matthieu, qui a été habitué à autre chose. Il suffit de penser à cette rencontre entre Jésus et la femme cananéenne un peu plus tôt. Une femme cananéenne qui, visiblement, ne faisait pas partie du plan de Jésus, mais qui, au fil de la discussion, se trouve elle-même agrégée, intégrée au troupeau, grégarisée en quelque sorte. Le Christ ne serait-il plus celui qui dit « suis-moi », mais celui qui rejette ? Bien sûr que non. Et c'est heureux pour un jeune baptisé, car toutes les promesses qui sont dites sur lui demeurent vraies. Il me semble au contraire que nous avons là, dans l'Évangile selon Matthieu, un équivalent finalement de l'épisode de la brebis perdue, pour laquelle on met tout en œuvre pour la retrouver. C'est un épisode qui nous encourage à faire corps, à faire personnellement corps, qui ne laisse pas aux autres le soin de trouver des solutions, qui ne renvoie pas à Dieu seulement le soin d'accompagner ceux qui sont dans la nuit, ceux qui sont un peu démunis. C'est un épisode qui nous engage personnellement. C'est un épisode qui nous oblige. C'est un épisode qui nous invite à être solidaires, solidaires avec ceux qui ne sont peut-être pas très bien équipés, ceux qui n'ont pas forcément fait le plein de tout ce qui peut être utile, ceux qui n'ont pas forcément tout ce qui est vraiment nécessaire dans la vie, ceux qui ont peut-être la tête ailleurs, ceux qui ont du mal à se projeter dans l'avenir, ceux qui ont du mal à se préparer pour la suite, ceux qui seraient un peu du genre à se perdre et à se noyer dans trois fois rien, ceux qui seraient du genre à s'égarer loin de l'essentiel. Mais voilà, parce que Dieu ne veut pas perdre un seul de ses petits, il nous rend nous-mêmes responsables des moins bien lotis. Il ne nous invite pas à être sages à la manière de ces vierges sages qui restent plutôt sur leur quant à soi. Mais parce qu'il ne veut perdre aucun de ses petits, il nous rend responsables des moins bien servis, de ceux qui n'ont pas forcément conscience de tout ce qu'il faut, de tout ce qu'il faut faire, de tout ce qu'il faut être, de tout ce qu'il faut avoir reçu, de tout ce qu'il faut comprendre, envisager, entreprendre pour avoir une vie à la hauteur de l'espérance de Dieu. Grégarisez-vous en quelque sorte, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Restez groupés. Parce qu'évidemment, ce seront toujours les plus faibles qui trinqueront si vous allez chacun de votre côté. Bien sûr que ce sont toujours les plus forts qui s'en sortent le mieux. Bien sûr que ce sont toujours les mieux nés, les mieux équipés, les mieux instruits qui s'en sortent le mieux. Bien sûr que ce sont toujours les paroisses les plus riches, les plus grandes qui s'en sortent le mieux. Bien sûr que ce sont toujours les grosses entreprises qui subissent moins la crise. Restez groupés. Grégarisez-vous. Cela évitera que les insensés restent dehors. Dieu compte sur nous pour que le royaume des cieux ne soit pas un lieu d'exclusion, ne soit pas amputé des plus petits d'entre nous, des moins bien disposés, ceux auxquels on ne pense même plus et qui pourtant sont véritablement une figure du Christ, nous apprendra à la fin de l'Évangile selon Matthieu. Ceux qui sont invisibles, ceux auxquels nous ne prêtons même plus attention. Oui, Dieu compte sur nous pour que notre sagesse ne soit pas semblable à ceux qui professent le fameux « tant pis pour toi ». Tant pis. Mais que notre sagesse soit à l'image de ce que Dieu espère, de ce que Dieu désire, de ce que Dieu suscite en nous, et qu'elle favorise l'évangile de l'autre chance, qui ouvre à nouveau des portes à ceux qui sont au seuil de leur propre existence. Amen.